Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous allons nous intéresser aux lieux de plaisir et de débauche d'autrefois cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia. Je voudrais préciser à nos auditeurs qui nous envoient toutes sortes de mails et de messages, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Je voudrais leur préciser que cette émission est ouverte aux questions. Donc envoyez-nous vos remarques, vos suggestions, n'hésitez pas à nous les adresser et ce... Par deux biais, Julia.
Exactement, par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, soit sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle « Au cœur de l'histoire ».
Voilà qui est dit. Alors, je dois vous préciser tout de suite, Julia, que l'émission d'aujourd'hui, pour moi, n'est pas une émission comme les autres. En effet, je vais vous livrer, pour la première partie de l'émission, un récit tiré des très longues confidences que pendant 7 années, de façon régulière, c'était souvent le samedi après-midi, j'ai recueilli d'une vieille dame qui avait fini par devenir une amie chère. J'en parle au passé parce qu'elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Cette dame, nous l'appellerons Michel, a connu sur un quart de siècle à peu près toutes les formes de maisons closes qui ont pu exister. Ses souvenirs sont une page de l'histoire de la prostitution en France. Et pour le moment, je ne les ai pas publiés, mais vous allez voir, je vous en offre aujourd'hui la primeur.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Je vous emmène dans le Paris des années 30, celui des grands boulevards et des films de Marcel Carné, le Paris de Miss Tinguette et de Sacha Guitry, mais aussi un Paris moins brillant, celui où grenouillent toutes sortes de marlous, de macs et d'entrelardés, comme on dit dans le milieu, pour désigner ceux qui ne sont pas vraiment du bâtiment. C'est sur fond de terrain vague et de vieilles réclames pour du beau, du bon, du bonnet qu'il faut imaginer la petite Michelle livrée à elle-même. À 17 ans, elle est une jeune fille sans histoire, ou en tout cas, pour être tout à fait juste, sans trop d'histoire. Pour tout dire, elle a quitté à 16 ans le modeste foyer parental après la mort de son père. Et à ce moment-là, elle s'est mise à traîner un peu à droite à gauche. Elle a vécu chez une amie, elle a connu la grande précarité des adolescents en rupture de famille. Il n'y a pas d'époque pour ça. Pour obtenir l'émancipation légale, parce que c'était son problème, elle était toute jeune, je vous dis 16 ans, et seulement dans ce but-là, elle a épousé le premier venu. C'est vraiment le cas, elle a choisi quasiment au sort dans une boîte de nuit. Elle a épousé quelqu'un qu'elle s'est empressée de quitter, elle a très vite divorcé, et depuis, elle vit en banlieue parisienne comme ouvrière dans une fabrique de piles. Vous allez voir que tout ce terreau n'est pas neutre. Le seul divertissement de Michel, c'est le bal. Et on peut dire qu'elle sort souvent. Or, à Paris, dans ces années 30, certains bals ont très mauvaise réputation. L'As de pique ou la Boule Rouge sont des bals mal fréquentés. Il y a aussi le Chat qui miaule, où Michel se rend régulièrement depuis quelques semaines. Les hommes qui fréquentent le Chat qui miaule ont 30 ou 35 ans. Complet et chapeau d'alpaga, le diam au doigt, de quoi fasciner la petite Michelle. Ce soir, elle a repéré un homme qui a de la classe, comme on dit. S'il est seul à sa table, elle ne le quitte pas des yeux jusqu'à ce qu'il l'invite à danser, en sifflant. Vous savez, il met les deux doigts comme ça sur ses lèvres, il siffle. Ça, c'est comme ça qu'on fait dans ce genre de bal. Il s'appelle Paul. Michelle n'est pas déçue. Son cavalier l'entraîne dans plusieurs javas endiablés. Désormais, la jeune femme est comme magnétisée. Et plusieurs soirs de suite, elle va faire son possible pour séduire Paul. Elle le dévore de ses yeux. Elle avait des yeux magnifiques, des yeux gris. Elle agite ses longs cheveux dorés. Paul feint une quasi-indifférence. En tout cas, il garde ses distances et se contente de la regarder fixement de temps en temps, comme s'il se posait des questions. C'est évident, il la trouve trop jeune. C'est ça qui fait qu'il se méfie. Il se méfie du détournement de mineurs. Alors, Michel va le mettre à l'aise. « Vous venez souvent ici ?» Il approuve sans trop répondre. « En tout cas, vous dansez bien. »« Bon, tu sais, moi... » C'est clair, il n'a pas envie de perdre son temps. Il le lui dit carrément. « Te fatigue pas, va. T'es trop jeune pour moi. »« Ah, je suis jeune, d'accord, mais en fait, je suis majeur. » Il sourit en secouant la tête, il n'en croit pas un mot. « Je suis majeur parce que j'ai déjà été marié. » Ah là, ça change tout. D'un geste, Paul commande le champagne. Il se présente. Et le soir même, il l'emmène à l'hôtel. Il la met dans son lit et après avoir fait l'amour, il lui demande sans embâge « Dis-moi, est-ce que t'as bien compris qui je suis ?» Michel reste muette. Tu sais que j'ai des femmes.
Oui.
Ces femmes, elles travaillent pour moi, tu me suis?
Oui, Michel n'a pas dit non.
C'est comme si elle avait dit oui. À 17 ans, elle pense avoir trouvé l'homme qui va diriger sa vie. Le reste a peu d'importance, elle fera ce qu'on lui dit de faire. Le fameux Paul l'emmène avec lui à Saint-Germain-en-Laye pour la placer dans une maison dont la tenancière les accueille avec un air vaguement amusé. « Je vous présente ma femme, dit-il, elle débutera chez vous. »
Sa femme, Michel a bien entendu, elle a tiré le bon numéro. Ce n'est pas la sous-maîtresse qui va la détromper, elle va même, au contraire, la rassurer. Et puis, au passage, elle lui apprend le métier.
« Tu sais, il faut que tu fasses honneur à ton homme, lui dit-elle. Tu sais que tu es sa 11e femme. »
11e femme?
Oh, ça ne fait rien, se dit Michel. Au contraire, elle est honorée que son homme ait beaucoup de femmes. Ça prouve qu'il est un vrai caïd.
Elle est débutante et donc elle doit tout apprendre du métier. Et puis la patronne ensuite l'accompagne à la préfecture de police au service des mœurs pour la faire inscrire sur le fichier des filles soumises. C'est comme ça qu'on dit à l'époque.
Quand une femme arrive ainsi dans une maison, elle fait ce qu'on appelle sa nouveauté. La plupart des clients habitués veulent monter avec elle, forcément. Alors Michel se montre consciencieuse dans son travail. Son but est de rapporter le plus d'argent possible à son homme. Un soir, la patronne la regarde d'un curieux air. Elle lâche « Tu sais, si t'arrive quoi que ce soit, tu seras toujours la bienvenue ici. »
« Mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça ?» se demande Michel.
Elle ne va pas tarder à le comprendre. Après quelques semaines, Paul est de retour à Saint-Germain. « On me dit que ton apprentissage est terminé, c'est vrai ?»«
Bah, je crois que je commence à me débrouiller.
Alors tu peux venir avec moi à Paris. »
Le cœur de Michel fait des bonds. Son homme ajoute
« Tu pourrais essayer le dehors, non ? Tu irais avec Mado ?»«
Oui. » »«
C'est pas difficile, tu sais, tu marches tranquillement sur le trottoir, les clients, tu les regardes bien en face, ça suffit. T'as même rien à dire. »
Michel pâlit. Elle se dit qu'elle n'y arrivera pas, elle n'y arrivera jamais, elle le sent, elle le sait, et de fait, elle va se révéler très mauvaise dans son nouvel emploi.
Un soir, depuis la terrasse de café où il est attablé, Paul lui fait signe d'approcher. Il est avec trois amis et Michel les salue un peu intimidée. Elle est persuadée qu'on va lui reprocher de ne pas faire assez de clients, au lieu de quoi elle entend ces mots magiques.
« Messieurs, je vous présente ma femme. »
Alors là, pour Michel, c'est l'extase. Le moindre mot de la part de son homme la transporte. Il se tourne vers elle et lui demande « Tu voudrais pas aller danser ?»
Cette fois, c'est trop beau. Au milieu d'un tango, il lui glisse à l'oreille.
« Je vais acheter un bar en Afrique du Nord et si tu veux, je t'emmène. »
Michel manque un pas ou deux. Là, elle croit rêver.
Lui reprend. « Tu commences par travailler un peu là-bas ? Un an ou deux, et puis après... » Il regarde par terre. « Après, on s'installe. »
On s'installe. Michel n'en croit pas ses oreilles. Son homme a 11 femmes et c'est elle, Michel, qui l'a choisi pour se retirer des affaires.
Dans les jours qui suivent, le voyage est arrangé. Les choses ont l'air de se faire d'elles-mêmes, comme par enchantement. Seulement voilà, la veille du départ, Paul reçoit un pneumatique. Pas de chance quand même, sa mère a fait une attaque. Ah ben oui, il doit se rendre à son chevet. Ah, ça tombe mal, et d'autant plus que la cabine sur le bateau est déjà réservée. Bon, ben, dit-il à Michel, le mieux c'est que tu partes avant moi, et puis moi je te rejoindrai après, à Constantine, dans 2 ou 3 jours.
Au cœur de l'histoire, reviens dans un instant sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, de lieux de plaisir et de débauche, d'autres froids avec vous, Franck Ferrand, sur Europe 1.
Et oui, Julia, pour ceux qui prendraient l'émission en cours, je précise que ce que je raconte aujourd'hui, c'est extrait des très nombreux, très importants mémoires que m'avait confié une ancienne prostituée, il y a maintenant une 12 quinzaine d'années. Et c'est la première fois que je raconte moi-même son histoire et je suis assez ému. Alors, en disant au revoir à Michel, son Mac, Paul, avait précisé « Des amis à moi t'attendront sur le quai là-bas en Algérie, à Beaune. Tu verras, ils sont un peu spéciaux, mais en fait ce sont de braves types. » Michel hésite un peu, partir seul ne l'enchante pas, mais après tout, puisque son homme doit la rejoindre dans 48 heures, elle accepte. La traversée dure 2 jours sur le Lamoricière et le paquebot entre de nuit dans le port de Beaune. En bas de la passerelle, Michel finit par trouver la voiture noire qui l'attend sur le quai. Paul avait raison, ses amis sont un peu spéciaux et pas causants du tout. Ils la conduisent sans un mot vers le sud du Constantinois, à la limite du Sahara jusqu'à une grande maison isolée, entourée de hauts murs. Une vieille femme leur ouvre. Elle porte à la ceinture un lourd trousseau de clés. À peine entrée, Michel entend les 2 grosses portes se refermer derrière elle. Boum, boum, ça fait tout drôle. Heureusement, se dit-elle, que Paul ne va pas tarder à me rejoindre.
Dans un coin de la cour, deux molosses montent la garde. Pas très accueillant tout ça. Quant au maître de maison, c'est un homme borgne, à la figure carrée, très dure, qui la salue à peine. Il lui indique rapidement sa chambre et retourne se coucher. Le lendemain matin, la mauvaise impression de Michel se confirme. Cette maison n'inspire pas, mais alors pas du tout confiance. Dans la grande pièce du bas, qui est toute carrelée, les tables et les chaises sont rivées au sol, comme si on redoutait les bagarres, vous voyez. Le plus étonnant, ce sont ces femmes à la balustrade tout autour du patio. Il y en a 6 ou 7, la plupart atteignant la bonne quarantaine, et surtout, elles sont presque nues. Ce premier jour, au milieu de l'après-midi, toutes les femmes descendent ensemble au salon. Le patron invite sèchement Michel à les rejoindre. Un homme les attend, entièrement dissimulé par une gandoura avec des chiffons aux pieds tenus par des ficelles. Seuls ses yeux sont visibles. Michel a beau ne pas être très affranchi, comme on dit. Elle comprend que l'une des femmes va devoir monter avec ce fantôme dans une petite chambre là-haut. L'homme les passe rapidement en revue, s'arrêtant à Michel. C'est elle qu'il désigne. Elle frissonne, elle regarde autour d'elle, elle tente de se dérober, mais le borgne la rattrape par le bras et la pousse violemment vers le client. À ce moment-là, elle s'évanouit. Quand elle reprend conscience, elle est dans la chambre du patron. Le gros homme au visage de brute a l'air vraiment très mécontent. « Un conseil, dit-il, je vais pas la jouer gabin, mais ça peut être un peu ça la voix. Ne me refais jamais ce coup-là. D'ailleurs, je vais tout de suite te mettre au parfum. Ici, c'est ce qu'on appelle une tôle à fond perdu. Ton homme, il t'a vendu, pour de bon. 25 000 francs. Alors ce pognon maintenant, je te jure que tu vas me le rembourser. Alors à partir d'aujourd'hui, tu fais tous les clients qui se présentent. » Et là-dessus, il sort. Michel est complètement sonné, vendu. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est convaincue qu'il ment, ce borgne. Paul va arriver, la tirer de là. Michel s'accroche à cette certitude. Mon homme va venir. J'ai sa parole. Et vous savez, chez ces gens-là, quand on dit sa parole, tout est dit. Les jours, en vérité, s'écoulent. Et Paul ne donne évidemment aucun signe de vie. Seul, sans défense, Michel est bien obligé de se soumettre. Si seulement elle avait quelqu'un qui se raccrochait, seulement les femmes n'ont pas le droit de communiquer entre elles. Même pendant la sieste, le patron les surveille. Assis à cheval sur une chaise, ses gros bras autour du dossier, il est là, qui somnole. Dès qu'une femme quitte sa chambre pour regagner celle de la voisine, il se redresse et hurle « 100 balles, ma belle! N'oublie pas qu'il dort jamais l'ordure !» Ces 100 francs s'ajoutent alors à la dette de la femme mise à l'amende. Comme par ailleurs tout est payant dans la maison, le compte s'allonge indéfiniment. Aucun espoir de jamais rembourser tout ça. La journée, Michel est cantonné dans sa chambre, sauf quand un client se présente au salon. Alors à ce moment-là, le patron crie « Au choix, mesdames, allons vite !» Étant nouvelle et de loin la plus jeune, Michel a la préférence des clients. Pour elle, c'est un véritable supplice. Elle s'y refuse de tout son être et comme il n'y a pas moyen d'y échapper physiquement, elle tente de fuir comme elle peut par la pensée. Alors elle s'imagine que ce n'est pas elle qui se livre, que c'est une autre. Le soir, de 8h à minuit, elle descend dans la grande salle où elle fait les 100 pas avec les autres femmes. Elles sont toutes là qui marchent autour des tables rivées jusqu'à ce qu'un des clients les choisisse. Et dès qu'une femme ralentit, le patron frappe dans ses mains et crie « On tourne, mesdames, on tourne, on tourne !» De temps en temps, il arrive qu'un client appelle plusieurs femmes à la fois. Elles en profitent alors pour échanger quelques mots. Et c'est comme ça qu'une femme, celle qui porte toujours une croix du Sud en or, peut confirmer à Michel les propos du tenancier. « T'es marron, lui dit-elle tout bas. C'est pareil pour nous toutes. Mais non, pas moi. Si, t'es marron comme les autres. » Avec le temps, Michel doit se rendre à l'évidence. Elle ne doit plus compter que sur elle-même. Il faut qu'elle sorte d'ici. Il doit bien y avoir un moyen. Son seul contact avec l'extérieur, c'est le médecin. Il vient chaque semaine pour la visite. Seulement comment lui parler? En fait, dès la deuxième visite, le docteur lui facilite la tâche. « T'es bien jeune, lui dit-il. T'as jamais pensé à une autre vie, toi ?»« Je ne pense qu'à ça, dit Michel. Mais seulement, je ne sais pas comment sortir d'ici. Écoute, lui dit le médecin en baissant le ton. Voilà ce que nous allons faire. » En pleine nuit, une fois la maison endormie, Michel descend sur la pointe des pieds et se faufile vers l'arrière-cuisine. Elle prend garde de ne pas réveiller les chiens. Elle s'approche de la porte qui donne sur la cour de derrière et retenant sa respiration, elle frappe 5 petits coups comme convenu. Pas de réponse. Michel a peur. Son complice l'aurait-il oublié? Elle frappe à nouveau 5 coups, un peu plus fort que les précédents. Cette fois, la serrure grince. Son cœur bat encore plus fort. La poignée s'abaisse. La porte s'entrouvre. Seulement, ce n'est pas le médecin qui apparaît. C'est le patron lui-même. « Ah, tu croyais lui échapper à l'ordure, hein? Tu prends le toubib pour un cave ?» Elle voudrait se sauver. Seulement, le borgne lui saute dessus et la roue de coups. La correction est sévère. Il lui faudra 1 semaine pour commencer à s'en remettre. Maintenant, Michel est convaincu qu'elle ne sortira jamais d'ici. D'ailleurs, si elle s'échappait, où est-ce qu'elle pourrait aller? Elle est à moitié nue, elle n'a pas de papier dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle serait vite arrêtée et ramenée à sa prison, car la police elle-même est en cheville avec le patron. Un soir, la femme à la Croix du Sud réussit à la prendre à part. Elle lui dit « Je sens que t'as des tripes, t'en as dans le ventre. Et parlant du salaud qui l'a vendu, tu t'en sortiras, tu le retrouveras, tu le buteras. » Cette phrase, Michel va la retenir. Elle va se la répéter inlassablement pendant 2 ans et demi. Même quand tout espoir semble perdu, elle ressasse cet objectif. C'est son seul but. Tu t'en sortiras.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Et sur Europe 1 aujourd'hui, au cœur de l'histoire, vous plonge dans l'univers des maisons closes et de la prostitution, Franck.
Et en l'occurrence de ce qu'il y avait de pire, puisque tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de maisons closes beaucoup plus souriantes, accueillantes et parisiennes, pour tout vous dire. Mais là, évidemment, nous sommes carrément dans ce qu'on appelait une tôle à fond perdu, aux confins du Sahara, dans l'Algérie des années 30. Vous savez, cette femme à la Croix du Sud qui disait à Michel « tu t'en sortiras », eh bien le plus étonnant dans cette histoire, c'est que Michel s'en est finalement sorti. Comment ? En changeant radicalement d'attitude, en jouant à fond le rôle qu'on lui impose, en apparence du moins. Alors, elle, si vous voulez, elle s'est fait une raison et il lui arrive maintenant, elle joue le jeu, de rire avec les clients. L'alcool y aide beaucoup, faut dire, ainsi que la drogue. Mais même ivre, elle ne manifeste plus aucun désir de liberté. Et le patron, du coup, est très content. « Bah, tu vois quand tu veux, t'es une bonne fille dans le fond. » Assez souvent, le Borgne organise des soirées avec plusieurs... Je vois que ça vous plaît quand je fais le patron de tôle, finalement.
Il y a quelque chose. Hein. De Jean Gabin, vous l'avez dit tout à l'heure.
Donc il organise de temps en temps des soirées, ce bonhomme, avec d'autres tenanciers, bien entendu. Et à chaque fois, les femmes les accompagnent au champagne. Or, Michel sait que l'un d'eux l'a remarqué. Au lieu de le repousser, comme elle aurait fait encore quelques semaines auparavant, elle va s'appliquer au contraire à le séduire. Elle n'hésite pas à minauder quand il faut, si bien qu'un soir, le patron lui annonce, en désignant l'homme en question, « Tu vois ce monsieur-là, ben, il paye toutes tes dettes et tu t'en vas ce soir avec lui. » Sur le coup, Michel n'ose même pas y croire. Seulement quand elle entend les deux portes se refermer, boum, boum, mais cette fois dans l'autre sens, elle comprend qu'elle revient de loin. 5 mois plus tard, elle est de retour à Paris. Plus que jamais, au fond d'elle-même, la petite voix se fait entendre. Tu le retrouveras, tu le buteras. Il faut retrouver Paul. Pour elle, c'est devenu une sorte d'impératif. C'est le but même de son existence. Elle le cherche, elle ne met pas longtemps à le retrouver, elle le repère un soir dans un de ses bals favoris, Place Pigalle. C'est le bal du Moulin Rouge, pour ne pas le nommer. Il est en train de danser, il n'a pas changé, toujours aussi bel homme. Tu le buteras. Elle se rappelle cette phrase, elle la ressasse. Or, dans son sac à main, elle a un revolver qu'elle a acheté l'après-midi même avec l'argent des passes qu'elle avait pu faire à Marseille en débarquant. Elle le serre, ce revolver. Elle entre sur la piste. Elle se mêle à la rumba. Une rumba qui s'appelait Martha. Elle s'approche de lui. Il serait dit, il l'a reconnue. Pourtant, on peut dire qu'elle a beaucoup changé, Michel. Elle n'est plus du tout la petite fille innocente qu'il avait vendue. Il retourne s'asseoir. Elle le suit. Elle lui crie, sors fumier si t'es un homme. Il essaie de se justifier. Elle brandit son revolver. Elle l'insulte. T'es vraiment la reine des salopes. Il veut protester. Il se lève. Elle le cramponne par les cheveux. Elle lui enfonce le canon dans la bouche, le chapeau part sur le côté, elle tire 2 balles. Il s'est affalé sur sa chaise, mort évidemment. Michel s'assied en face, elle reste prostrée en attendant l'arrivée de la police. À son procès, elle bénéficiera de circonstances atténuantes, bien entendu, puisque la victime est réputée proxénète. Donc le jury des assises va se montrer clément, et même très clément, puisqu'il ne la condamne finalement, si l'on peut dire, qu'à trois ans de prison ferme. D'ailleurs, Michel s'en moque de la prison. Pour elle, l'objectif est atteint. Elle s'en est sortie. Elle l'a retrouvé. Elle l'a buté. Au passage, permettez-moi de préciser qu'elle a 20 ans. Alors évidemment, l'histoire de Michel pourrait s'arrêter là. En vérité, elle ne fait que commencer. Parce que cette aventure terrible de la folle à fond perdu ne sera en réalité que le préambule d'un interminable parcours d'endurance, si je puis dire, de souffrance, diraient d'autres, à travers toutes sortes de maisons closes. Elle a été condamnée à 3 ans, ce qui fait qu'elle sort juste à la fin de 1939, à la veille, vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle revient à Paris et c'est la grande époque des maisons à Paris. Alors, j'ai sous les yeux les mémoires, enfin le script de Michel, et elle dit « La première tôle d'abattage que j'ai fréquentée à Paris, c'est le Fourcy dans le quartier Saint-Paul ». Ça se trouve effectivement au carrefour Saint-Paul. Rue de Fourcy d'ailleurs, tout simplement. Il y avait là une soixantaine de femmes, raconte-t-elle, mais une douzaine seulement travaillaient beaucoup. C'était mon cas. On m'avait surnommé « cul en or ». Pourquoi pas ? On nous retrouvait toujours debout dans l'entrée, lançant à la cantonade « Qui donne 10 sous ? Qui donne 10 sous qui monte ?» C'était ça la façon d'appeler les clients. Cette maison est une véritable tôle d'abattage. Il lui arrive dans cette maison de faire jusqu'à 80 passes par jour. Alors il y a parfois des clients qui sont ce qu'on appelle des connus, c'est-à-dire des gens qui sont des habitués, si vous voulez. Alors à ce moment-là, il faut contourner la règle sur les pourboires, car théoriquement on n'a pas droit aux pourboires. Alors les femmes les cachent dans les chaussures, seulement ça fait des traces dans les chaussures, donc la patronne s'en rend compte. Pour essayer de s'en arranger, on les affranchit, comme on dit. C'est-à-dire qu'on leur signale que c'est un connu et qu'elles vont avoir un peu d'argent à mettre de côté. Sinon, simplement, les clients payent avec des jetons qu'on leur vend à l'entrée de l'établissement. Sans prétention, précise Michel, il faut dire que j'étais devenue une très belle fille. J'avais donc beaucoup de chance au tapin, on le voit. Et du reste, elle va enchaîner dans un certain nombre de grandes maisons. J'ai enchaîné sur des maisons d'un tout autre style, précise-t-elle, comme le Chabanais ou le 122. Le 122 parce que ça se trouvait tout simplement 122 rue de Provence. Ça, c'est une maison chic avec des Européens et des touristes. Pour Michel, ça n'est pas du tout le bon plan, si vous me passez l'expression, parce que on est obligé de leur faire le grand cinéma, ce qu'elle appelle la scène du 2. Elle préfère, elle, les passes qui vont vite et qui sont rapidement expédiées. J'ai fréquenté aussi un peu les clandés, dit-elle. Alors les clandés, c'était des maisons de rendez-vous qu'on appelait plus élégamment les maisons de 7 heures. Là, les clients sont censés croire que les femmes sont des dames mariées qui viennent s'encanailler comme ça vite fait pendant un 5 à 7. Ça fait partie de la mise en scène. Et puisqu'on parle de mise en scène, il y avait aussi ce qu'elle appelait, avec son espèce d'accent un peu faubourien, Michel, l'étau, la passion. Ça veut dire tout simplement les établissements spécialisés dans les relations SM. Alors ça ne lui plaisait pas tellement non plus, elle. En bref, on peut dire qu'avant l'arrivée des Allemands en 1940, elle aura fait littéralement le tour de la question. Et puis, avec l'invasion allemande du 10 mai, elle se retrouve après l'exode à Biarritz. Et là, elle ne va plus faire que les tôles de l'occupant. Donc les maisons, les bordels des Allemands. Et puis en 1944, on la retrouve au devant des libérateurs dans des maisons improvisées dans les garages et les buanderies de Normandie. Ensuite, elle suit les soldats français dans la zone d'occupation française en Allemagne. Avant de rentrer, et puis là, elle apprend que Marthe Richard vient de fermer les maisons closes et elle se retrouve de nouveau en Algérie, à Oran, à Alger, et cette fois dans des tôles d'abattage absolument terribles, puisqu'on la verra recevoir le dimanche jusqu'à 200 clients dans une journée. Michel n'abandonnera ce métier qu'en 1962, au moment des accords d'Évian, et à ce moment-là, elle rentre à Paris. C'est sa deuxième vie qui commence. C'était pas sa vraie vie. Elle disait, c'était la vie de l'autre qui a commencé en 1962.
Nous avons eu la grosse Charlotte, Mimi de Vannes et la Zonzon, qui arrosait chaque soir sa motte au cognac et au Marsala, au cognac et au Marsala. Nous avons eu Marie Ficelle qui revenait de Douala. Qui revenait
Barbara sur Europe 1, de jolies putes, vraiment.
Tout petit morceau de Barbara. Juste dans la deuxième partie de l'émission, nous irons nous promener dans les maisons closes de Paris en compagnie de Laurent Guimier, qui avec Nicolas Charbonneau est l'auteur du roman des maisons closes. Vous allez voir que ce sont des lieux qui nous réservent énormément de surprises.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au lieu de plaisir et de débauche d'autrefois. D'ailleurs, si vous avez des questions, des réactions, des témoignages, Europe 1.fr, mais aussi la page Facebook de l'émission. Franck.
Et d'ailleurs, sur la page Facebook, Pierre Chauveau me demande si cette histoire ne serait pas tirée d'un livre de Pierre Bellemare qui s'appelle Carrefour des angoisses. Ce n'est pas intégralement faux, puisqu'à l'époque où je prenais effectivement où je recevais les confessions de Michel, j'écrivais des histoires pour Pierre Bellemare dans l'émission Les Aventuriers du XXe siècle.
Ouais.
Et je m'étais un peu inspiré, même largement inspiré de cet épisode pour une histoire de Bellemare. Bravo monsieur de l'avoir repéré. Mais ce que je viens de vous raconter là, ce sont les souvenirs directs de Michel en fait.
Thank you.
Ce générique, c'est celui de la série Maison Close sur Canal+, Franck.
Et oui, une série qui reconstituait littéralement l'atmosphère incroyable de ces maisons closes. Vous savez, ces boudoirs caquetants d'un Toulouse-Lautrec ou d'un Maupassant. Car c'est à travers des auteurs et des artistes comme ceux-là qu'en quelque sorte, les bordels ont acquis leur lettre de noblesse, si l'on peut dire, avant la terrible date pour l'histoire des maisons closes, c'est-à-dire 1946, la fermeture Marthe Richard. Alors pour évoquer cette période, pour évoquer les grandes heures, si je puis dire, des bordels, vous me passerez l'expression, j'ai invité l'un des deux auteurs d'un des chefs-d'œuvre de la rentrée, le roman des maisons closes, par Nicolas Charbonneau et Laurent Guimier. Merci Laurent d'être des nôtres.
C'est moi.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes chez vous ici, puisque vous avez été le directeur de la rédaction d'Europe 1, donc vous connaissez un peu les murs.
Un petit peu, oui.
Et vous connaissez aussi très bien les murs des boudoirs parisiens, puisque, et ça c'est passionnant, vous êtes allé vous promener dans Paris, aux différentes adresses où se trouvaient les grandes adresses mythiques, hein, celles du Chabanais, celles du Sphinx, etc. Vous êtes allé voir les immeubles, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est un peu triste ce que vous nous racontez.
Bah, c'est triste parce qu'effectivement, alors on ne s'attendait pas, en se baladant dans Paris, à voir des grandes plaques ici. Évidemment, c'est compliqué.
Ça reste discret quand même.
C'est discret à tel point que c'est, on va dire, un morceau de l'histoire de Paris, de l'histoire des mœurs françaises, qui est complètement passé sous silence, pour faire simple, puisque vous parliez du 122, 122 rue de Provence, comme son nom l'indique. C'est un immeuble de bureau qui accueille un syndicat de professionnels de la tannerie, je crois. Rue Chabanais, le 12 rue Chabanais, là où se trouvait le fameux Chabanais, il y a un restaurant chinois et puis au-dessus encore des bureaux. Enfin bref, il n'y a aucune trace. Alors, il y a juste un exemple, rue Blondel.
Oui.
Qui est une des rues, alors encore chaude de Paris, puisqu'il y a encore quelques rues dans Paris où des prostituées, on va dire, ont élu domicile. Alors elles ne sont plus dans les maisons closes.
Non, par définition.
Mais rue Blondel, au 32 rue Blondel, existait un bordel qui s'appelait les Belles Poules. Et la façade n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a une décoration assez étonnante et qui est l'un des derniers vestiges de cette époque. Et juste pour l'anecdote, j'ai posé la question à l'une des femmes qui travaille dans cette rue, qui ne savait pas qu'au 32 rue Blondel se trouvait un bordel. Et donc elle était... Alors,
vous
à
dites
la fois
dans le livre
et heureuse.
Vous dites dans le livre, je lui offrirai le livre. Vous l'avez fait finalement. Vous êtes allé lui donner.
Je ne suis pas retourné rue Blondel.
Voilà.
Mais vous me rafraîchissez la mémoire.
Vous pourrez y aller à 14h30 si vous voulez, Nicole. Parce que là, pour l'instant, on a besoin de vous, Laurent. Alors, vous nous parlez là de maisons assez chic. Il y avait aussi quand même le Panier Fleuri, le Fourcy dont j'ai parlé, puisque Michel y a officié.
Ouais.
Là, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était dans des choses moins relevées. Hein,
bah, vous l'avez malheureusement décrit.
Très
bien décrit, tôle d'abattage. Les statistiques que vous évoquez sont celles qu'on a retrouvées, c'est-à-dire 70 à 100 passes parfois par jour. Il y avait à peu près 700 maisons dans Paris à la grande époque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et sur ces 700 maisons, il y en avait une dizaine dont on pouvait dire qu'elles étaient des grandes maisons.
Ce qu'on peut appeler la grande époque de la prostitution parisienne et même nationale, puisque nous allons parler aussi des bordels de province, cette grande époque, c'est en fait, ça coïncide assez étrangement avec la Troisième République. Hein. Ça commence à la fin des années 1870 et ça finit avec la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point il y a un lien entre les deux, parce que c'est vrai que la République, elle est radicale, conservatrice, puis un peu plus libérale. En tout cas, c'est la fin de l'Empire libéral qui voit naître les maisons de tolérance, puis les maisons closes dans Paris. Mais effectivement, et d'ailleurs, la Troisième République, dans ce qu'elle a également de politique, fréquente ces maisons.
Et comment? Vous avez parlé du fameux Chabanais, par exemple. Le Chabanais, on y trouve pas mal de ministres, de députés, paraît-il même des chefs d'État étrangers.
Des chefs d'État étrangers, parce qu'à l'époque, une visite au Chabanais, donc dans une, on va dire, un homme politique étranger, un ambassadeur ou un ministre de passage à Paris, allait au Chabanais. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est une époque totalement révolue, ça ne se produit évidemment de nos jours. Les services du protocole, qui évidemment, quand même, essayaient un peu de sauver les apparences et puis ensuite de préserver la sécurité physique des personnes, ne marquaient évidemment pas dans l'agenda officiel du ministre ou de l'ambassadeur qu'il allait au Chabanais. Et il y avait un nom de code à l'époque qu'on a retrouvé. Chaque visite au Chabanais d'un autre étranger à Paris, c'était une visite au président du Sénat. une visite au président du Sénat dans l'agenda officiel des hôtes étrangers de passage à Paris, dans le protocole de la République française, c'était visite au président du Sénat.
À mon avis, ça n'avait pas tout à fait le même rythme, la visite au président du Sénat.
Le train de sénateur n'était pas forcément celui auquel on pense.
C'était
aujourd'hui.
Tout près du Jockey Club, ça tombait bien, en fait, hein, évidemment.
Oui, parce que le Jockey Club, et là aussi, ça permet de restituer un petit peu le statut de ces maisons. Le Jockey Club avait fait du Chabanais, qui était à 800 mètres à peu près du Jockey Club, son annexe officielle, à tel point que le président du Jockey Club de l'époque, M. Sosten de la Rochefoucauld, avait financé la réfection de cet immeuble de 6 étages pour en faire la maison de délices et de plaisirs qu'on décrit dans le bouquin.
L'autre grande maison, c'est le One Two Two. Michel raconte dans ses mémoires, hein, comme je vous disais tout à l'heure, que lorsqu'elle est entrée au One Two Two, on lui a carrément ouvert la bouche pour regarder ses dents. Elle dit comme un cheval. Et du coup, elle n'a pas voulu être traitée comme un cheval. Elle est repartie.
Ou comme un esclave. Parce que
oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'on parle de ces maisons, et on parle de maisons de délices et de plaisirs, mais ce sont un peu les deux faces d'une même pièce ou d'un même jeton, si je puis dire. On est dans l'esclavage moderne à l'état pur, tel qu'on le décrit aujourd'hui. Ces filles, d'abord, n'entrent pas toujours de leur plein gré dans ces maisons. Souvent, c'est une histoire d'une fille qui débarque de province, qui se balade sur les boulevards, et puis qui est alpaguée par un joli cœur, petite amourette, et puis finalement, la fille est purement et simplement vendue à une tôlière qui, moyennant un hébergement et un peu de ménage dans les premiers jours, ensuite la fait passer à la casserole et la fait passer cette fameuse et terrible visite médicale qu'on décrit. La fille se dévait, on regarde un peu dans quel état elle se trouve et puis après c'est parti, malheureusement.
C'est vrai qu'on a évidemment toujours un peu la remarque égrillarde, on regarde ça avec un certain sourire et puis il y a tous ces vestiges assez beaux, toutes ces belles photos, etc., qui d'ailleurs ont été, qui sont présentés dans un ouvrage de Paul Tessier chez Paris Gramme, qui s'appelle Maison Close Parisienne. C'est un très beau livre, un grand album. Alors ça, c'est le beau côté, effectivement, mais il y a beaucoup de détresse humaine, il y a beaucoup de parcours brisés dans ces histoires de Maison Close. Et finalement, Marthe Richard, qu'on a tellement voué aux gémonies, n'avait peut-être pas entièrement tort. Il y a aussi quand même beaucoup de souffrance, c'est incontestable. Il y a... Alors, vous nous le dites, des ministres, des ambassadeurs qui viennent. On peut même dire que, par exemple, au One Two Two, on vient pas forcément pour des raisons de sexe.
On ne consomme pas que du sexe dans les maisons closes à l'époque. Le One Two Two, c'est aussi l'adresse d'un restaurant réputé, étoilé, on dirait aujourd'hui, j'imagine, qui s'appelait le Bœuf à la Ficelle, qui était un restaurant.
Et là, on trouvait à table des gens très célèbres.
Oui, la jet set de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des boîtes de nuit, restaurants très, très typé et reconnu d'ailleurs dans ce quartier, à l'époque ça se passait dans ces maisons. Le Bœuf à la Ficelle, vous voyez débarquer le soir Michel Simon, Charles Trenet, Cary Grant, Marlène Dietrich, enfin tout ce que la bonne société culturelle de l'époque comptait, qui venait, alors sans canailler, parfois Michel Simon était,
oui,
alors lui, Michel Simon, c'était la bonne chair et beaucoup plus si affinité.
On va voir après la publicité qu'il y avait des guides, etc. Tout ça était à la fois tarifé, codé, balisé, tout un monde finalement.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Le roman des Maisons Closes aux éditions du Rocher, c'est le titre du livre de votre invité sur Europe 1, Franck Ferrand,
oui,
Laurent Guimier.
Laurent Guimier qui donc avec Nicolas Charbonneau s'est penché sur ces lieux de plaisir assez étonnants et dont on a oublié évidemment beaucoup de petits détails. La lanterne, vous insistez sur la lanterne, dites-nous un mot de ça, cette lanterne rouge.
La lanterne en fait, c'est ça commence à Rome.
Ouais.
C'était à l'époque une petite flamme, une flamèche rouge, enfin entourée d'une verre rouge, qui faisait que c'était tout simplement le signe distinctif des maisons à Paris et en province.
Permettait
de repérer sans avoir à forcément mettre une...
Vous faites une liste à la fin du livre des maisons de province. Ça, c'est très bien aussi, parce que quand on connaît certaines villes, c'est très amusant. Moi, j'ai découvert, par exemple, que dans la rue Magenta de Poitiers, que je connais par cœur, il y avait un établissement. C'est assez étonnant.
Oui, on a eu beaucoup de courriers suite au bouquin de gens qui se sont découverts une adresse un peu spéciale.
Qui se sont dit, mais c'était dans ça.
Voilà.
Pourquoi nous avions des salles de bain à tous les étages. Finalement.
Alors, et d'ailleurs, je précise que la liste n'est pas exhaustive, hein, donc on peut encore fantasmer.
Alors, ce qu'il faut dire derrière cette présence de maisons sur tout le territoire, évidemment, c'est que ça faisait partie quasiment d'un rite social. Et il y a ce chapitre que j'adore dans votre livre où l'on voit le papa, horloger en l'occurrence, emmener le fiston pour la première fois, chez les dames.
Oui, c'est l'horloger se prénomme Edgar et son fils Alexandre. Et puis voilà, un jour, il débarque dans la maison. Et d'ailleurs, là aussi, c'est très codifié parce que on désigne une fille en particulier qui voit très bien la raison pour laquelle ces deux hommes d'une génération d'écart débarquent dans la maison. Ils arrivent, la jeune femme que l'on appelle Loulou la tendresse dans le chapitre prend en main, c'est le cas de le dire, le jeune homme, il monte à l'étage et puis le papa pendant ce temps-là reste au rez-de-chaussée, s'affale dans un sofa et puis boit un coup, il attend. Et puis
un peu angoissé puis, évidemment pour que ça se passe bien.
Et puis
pourvu qu'il aime ça le gamin.
Une heure passe et puis finalement au bout d'une heure le jeune homme sort un peu ébouriffé et puis finalement pas mécontent de lui et puis les deux hommes repartent. Et puis après, on imagine le retour à la maison, on imagine que la maman est forcément un petit peu chamboulée aussi par ce qui vient de se passer.
On dit qu'on est un peu chez Maupassant avec tout ça. Ça faisait partie de la vie locale, hein, finalement aussi. Alors, il y a des gens, il y a tout un ensemble de rites hein, dans la maison elle-même. Il y a les visites pour les femmes, ce qu'on oublie parfois, hein, parce que la préfecture de police surveille tout ça, et les antennes de police en province, hein, tout le monde.
C'est extrêmement codifié d'abord d'un point de vue sanitaire. Et
il y a
heureusement,
des fichiers, il y a des visites médicales.
Obligatoires. Et les filles qui ne sont pas soumises à la visite médicale ou malheureusement sur lesquelles on découvre un problème sont immédiatement enlevées de la maison. Et alors là, pour le coup, recluses dans des maisons terribles, telle la célèbre maison Saint-Lazare à Paris, où là, on peut vraiment parler de mouroir incroyable.
Oui, parce que quand on était filles soumises, on était déchues quand même.
On parle de la visite médicale et puis il y a la police, évidemment, parce que dans ces maisons, on y voit passer des gens, on y entend beaucoup de choses, parce que...
Des indicateurs de toutes sortes.
Voilà, évidemment, il y a des indicateurs et les policiers, moyennant leur bienveillance, récupèrent des infos.
Et puis il y a la tôlière quand même, et ça c'est très important. Elle joue un rôle essentiel, les maquerelles.
Les maquerelles, oui, ces femmes qui sont... Alors effectivement, c'est toujours un couple, mais c'est quand même la femme qui porte...
Officiellement, c'est la femme. Hein,
voilà, c'est officiellement, c'est la femme, parce que c'est elle qui... on va dire peut-être que... Il y a une autorité naturelle vis-à-vis de ces femmes qui fait qu'elle joue à la fois de son sexe aussi pour lui intimer des ordres et puis quand ça va pas ou quand la fille est tentée de partir de
jouer dans l'affectif.
Voilà, de jouer dans l'affectif et de lui dire mais tu sais moi aussi je suis passé par là et puis toi tu t'en sortiras puis peut-être qu'un jour tu prendras ma place. Alors effectivement ça arrivait, mais combien de successions pour
il y en a qui ont laissé des noms de ces tenancières de maisons closes.
Oui, il y a des noms et puis il y a des noms...
Vous racontez des destins.
Il y a des destins incroyables. Alors il y a la célèbre casque d'or, évidemment.
Alors, voilà,
elle qui n'a jamais été une mère maquerelle, mais qui a été une prostituée qui a commencé à Paris, qui est allée dans plusieurs maisons, qui est allée au 106.
Le procès de casque d'or reste un...
Alors évidemment, on se souvient du film avec Simone Signoret, mais le procès en lui-même, et ça on a retrouvé dans les journaux de l'époque, était un procès extraordinairement médiatique. C'est-à-dire que cette histoire de cette femme écartelée entre deux hommes qui ont fini par s'entretuer et elle-même donc comparaissant dans ce procès en tant que témoin a fait de cette femme une sorte d'icône de la prostitution entre le 19e et le 20e siècle, qui fait d'ailleurs qu'elle en a vécu jusqu'à la fin de sa vie, puisque cette femme, une fois qu'elle a pris sa retraite de prostituée, on va dire, a publié ses mémoires et a même jouer, interpréter sur scène son propre rôle.
C'est bien dans les années 30 que la chose a connu le plus de succès, si l'on peut dire, hein, avec notamment un très célèbre bordel, le Sphinx.
Alors qu'il a aussi été un café autant qu'une maison. Alors,
un claque,
mais dans laquelle aussi, là, on retrouvait encore des peintres de l'époque, puisque le Sphinx était boulevard Edgar Quinet, près de Montparnasse, mais où on a également croisé Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir au milieu des années 30.
Toute une civilisation qui disparaît donc aussitôt après la guerre, sous les... on peut dire, sous la férule de Marthe Richard.
Oui, cette femme...
Elle ne s'est pas fait que des amis, Marthe
Richard.
Non,
c'est parce que c'est une femme, d'abord, qui avait une réputation extraordinairement sulfureuse, qui a été espionne pendant la Première Guerre mondiale, et puis qu'on a ensuite surnommée la Veuve Joyeuse, parce qu'elle s'était fort opportunément mariée à un directeur financier de la Banque Rockefeller, et puis qui, elle-même, était une ancienne prostituée, et qui, en quelques jours, a réussi à faire interdire les maisons closes dans Paris, au terme d'un vote à main levée, d'ailleurs, du Conseil de Paris. Donc, c'était plutôt bien joué, on va dire, puisque ça aurait été dur, je pense, pour un homme en 45 de dire « je suis pour le maintien des maisons closes ». Et puis, tout est parti ensuite. Et malheureusement, on peut le dire, les filles étaient dans les maisons, mais elles se sont retrouvées à la rue. Et ça, ça a posé un problème. Et
d'où la plainte, notamment de Jean-Yann, rouvrez les maisons closes.
Jadis, les filles étaient heureuses avant qu'on ferme les maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession. Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée Marthe Richard décida que deviendraient closes les portes de nos bobinards. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons.
Qu'on dérouille.
Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons.
Qu'on dérouille.
Oui, ce fut un immense drame, songez qu'à cette époque-là, des claques, il y en avait, mesdames, partout dans la France à papa. Même si ça vous scandalise.
Jean-Yann sur Europe 1 avec Rouvrez les maisons. Restez avec nous, on retrouve Franck Ferrand au cœur de l'histoire de la prostitution et des maisons closes sur Europe 1 tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand sur Europe 1.
On vous retrouve avec votre invité Laurent Guimier aujourd'hui sur Europe 1.
Laurent Guimier, auteur avec Nicolas Charbonneau du roman des Maisons Closes aux éditions du Rocher. Dans cette collection, vous savez, le roman 2 qui maintenant comporte un grand nombre de titres et est dirigé bien sûr par Vladimir Fedorovski. Nous saluons Vladimir, il viendra nous parler de Rasputin un de ses jours. Je crois que c'est dans 15 jours ou 3 semaines. Ceux qui suivent tout ça de très près ont déjà le programme sous les yeux, j'imagine. Il y a un mot, un sujet dont on n'a pas parlé, Laurent, c'est ce fameux guide rose. C'est incroyable, c'est le guide Michelin des maisons.
Oui, alors oui, ça, c'est vrai que ça ressemblait à une sorte de guide Michelin des maisons closes avec l'adresse, les spécialités du lieu et puis quelques indications de nature, c'est bien, c'est pas bien, etc. Alors il faut bien préciser que ce guide n'était pas évidemment en vente libre, il n'était pas vendu à la criée ni même dans les kiosques à journaux des grands boulevards. C'était un guide qui à l'origine était destiné aux professionnels, c'est-à-dire aux tenanciers de maisons, mais aussi à tout l'écosystème, comme on dirait aujourd'hui, qui tournait autour de ces maisons, c'est-à-dire les personnes, les taxis, mais aussi les fabricants de lits et de sommiers et de matelas qui faisaient commerce dans ces maisons. Et donc c'était un annuaire professionnel, mais qui
la
a très
publicité
vite...
du j'ai vu le matelas garanti 15 ans.
Exactement, que la maison à l'époque appelait le costaud, pour des raisons qu'on imagine. Et ce guide finalement était destiné aux professionnels, mais circulait sous le manteau à prix d'or parce qu'il permettait à certaines personnes de gagner du temps.
Alors ça, c'était en France à la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle. Mais évidemment, des lieux de plaisir, il y en a eu dans toutes les civilisations, à toutes les époques. Et c'est ce que nous raconte notamment Edith Wigg dans sa petite histoire des lieux de débauche chez Payot. Bonjour Edith Wigg.
Bonjour.
Merci de nous avoir ouvert l'esprit, si je puis dire. Vous nous emmenez très loin, jusqu'en Chine, vous.
Ah, jusqu'en Chine et jusqu'en Mésopotamie, 2000 ans
oui.
avant Jésus-Christ.
Ce que vous racontez, c'est qu'on retrouve dans toutes ces civilisations, en quelque sorte, deux types de maisons. Hein. Et il y a à la fois le très grand luxe avec des femmes tout à fait extraordinaires, et puis il y a le tout venant, bien entendu.
Il y a le tout venant. Alors le très grand luxe, pendant longtemps d'ailleurs, était au domicile même des gens. C'est-à-dire que si on prend la Grèce, les banquets, et quand on prend le banquet de Platon qu'on a tous eu en philo, c'était des scènes de débauche, mais qui étaient à domicile, dans des lieux spécialement aménagés, qui coûtaient très cher, parce qu'on faisait des fêtes avec des orchestres, avec des prostituées de très haut rang, les étahirs, qui en grec veut dire compagne. Et ça s'est répété jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Paris était enserré de maisons de campagne où le comte d'Artois, Bagatelle, elle a bien nommé, par exemple, donnait des fêtes absolument somptueuses et très débauchées.
Alors, on a un petit problème de liaison avec vous, Edith, mais je voudrais quand même vous poser une question sur le Moyen-Âge, cette période. D'ailleurs, il faut peut-être rappeler l'origine du mot bordel, hein. Les bordels sous Saint-Louis, ce sont les maisons qui sont au bord de l'eau, hein, tout simplement. Vous nous parlez des étuves qui étaient aussi des lieux de débauche. Hein.
Alors les étuves, est-ce que vous m'entendez mieux?
Oui, pas trop bien. Un mot encore, si vous voulez.
les étuves étaient des lieux de débauche, bon, comme toute l'autre. Alors, il y avait l'étuve hygiène que fréquentait la mère de Saint-Louis, donc la Blanche de Castille. Mais très vite, la promiscuité, les corps nus entraînaient bien des choses. Et beaucoup de miniatures du Moyen-Âge nous montrent les étuves comme de grands lieux de débauche avec des femmes qui étaient là pour ça ou qui venaient s'acoquiner même avec des bourgeois. Alors, il y avait les étuves de luxe où on venait, on mangeait, on mettait sur les baignoires des grandes planches avec du vin, des pâtisseries, des gâteaux, etc. Et là, à côté, il y avait les chambrettes de repos.
Comment s'étonner après tout cela qu'on parle tout simplement du plus vieux métier du monde ? Merci beaucoup, Edith Huyck. Vous êtes donc l'auteur de La petite histoire des lieux de débauche chez Payot. J'ai sous les yeux un document étonnant. Ça va vous amuser, ça, Laurent. La maison Henriot, vous savez, qui fabrique des meubles, a eu l'idée de rééditer le mobilier érotique de Catherine de Russie, de Catherine II. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les meubles en question ont des formes et des allusions assez extraordinaires. On se dit que l'impératrice de toutes les Russies ne s'ennuyait pas dans ses palais à Tsarskoye Selo ou à Pavlovsk. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez stupéfiant. Et l'idée d'Henriot de rééditer ce mobilier pour des gens aujourd'hui est une chose assez extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le roman des maisons closes, Nicolas Charbonneau, Laurent Guimier. C'est aux éditions du Rocher. On pourrait presque dire que c'est une introduction à une visite des hauts lieux de la capitale.
Écoutez, merci du compliment.
Et vous avez, à travers ce livre, fait revivre toute une époque et toute une ambiance. C'est un livre d'ambiance, comme beaucoup de livres de cette collection du petit roman et du roman. Merci beaucoup, Laurent Guimier, d'avoir été des nôtres. Je ne ferai pas de transition
non,
pour
s'il
ne
vous plaît,
finir
vous en remercie,
pas
Franck.
Comme maître d'un père. Et je reçois avec grand plaisir néanmoins notre amie Faustine Bollard.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Cet après-midi, nous allons consacrer notre émission au meilleur ami de la femme. Je ne veux pas parler de son mari, encore moins de son animal de compagnie, non. Pire, de son sac à main. Comment expliquer ce lien si particulier entre notre sac et nous-mêmes, nous les femmes? En quoi cet objet indispensable du dressing féminin évolue-t-il avec l'âge? De quelle manière est-il un indicateur du statut de la femme dans la société? Oui, ça va jusque-là. Nos sacs nous trahissent. En tout cas, on va en parler avec vous. Dites-nous ce que vous avez dans votre sac ou à quoi ressemble votre sac. On vous dira qui vous êtes. C'est le programme de l'heure à venir. On invite évidemment tous les mâles à nous appeler, mais également toutes ces femmes. Franck,
vous savez à quoi ça me fait penser? Non, alors j'ai pas de sac à main. J'ai jamais voulu de ces choses-là, moi. Mais par contre, ça me fait penser à la remarque, enfin, à cette célèbre réplique de Raymond DeVos. Ah, mesdames, vos sacs.
Voilà.
C'est un très beau sketch.
D'ailleurs, on va peut-être le passer dans l'émission. Voilà. 39-21 pour nous joindre en direct sur Europe 1, Franck.